Et donc, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est le fait que Dieu regarde au cœur. Alors, on va commencer en fait en lisant un passage qu'on connaît bien en 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. Vous savez, c'est le passage quand Samuel est venu oindre le futur roi d'Israël. Dieu l'a envoyé pour oindre le roi et donc il lui a dit que c'était un des fils d'Isaïe. Et puis Isaïe fait passer tous ses fils, les fils les uns après les autres devant Samuel. Et puis Samuel voit arriver l'aîné qui est grand, valeureux, qui a grande apparence. Et il se dit, c'est sûr, c'est lui. Et Dieu lui dit ça. En 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde. » Car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. Donc, ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est le fait qu'on a naturellement une façon de regarder les choses qui nous est beaucoup inculquée par le monde dans lequel on vit, par les médias, par tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et on nous apprend, en fait, depuis tout petit, que ce soit à l'école ou dans le monde, à juger les choses en fonction de ce qu'on voit à l'extérieur. On recherche ce qui est beau, on apprend à reconnaître ce qui est beau et à rechercher ce qui est beau, à rechercher ce qui est intelligent, à rechercher ce qui est renommé, à être fan de quelque chose. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que Dieu voit les choses et c'est pas du tout comme ça qu'il veut qu'on les voit non plus. Lui, il a une façon très très différente de considérer les choses qui ont de l'importance à ses yeux. Donc il y a quelques versets, on n'est pas obligé de les lire, je vais juste vous donner les références et je vais vous les lire. En Ésaïe 66, verset 2, on voit les choses que Dieu recherche. C'est ni les choses belles, intelligentes, ni de grande renommée, mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et celui qui tremble à ma parole. Donc les trois caractéristiques de quelqu'un que Dieu regarde, c'est l'affligé, celui qui a l'esprit contrit, celui qui tremble à ma parole. Et puis on trouve aussi en psaume 14, verset 2, « L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui recherche Dieu. » Donc voilà, d'un côté on a les critères du monde, tout ce qui est beau, tout ce qui est intelligent, tout ce qui est célèbre. Et puis de l'autre côté on a les critères de Dieu, tout ce qui ne paye pas de mine en fait. Tout ce qui est un cœur contrit, quelqu'un d'humble, quelqu'un d'affligé. Ou quelqu'un qui est intelligent, mais selon les critères de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'intelligence de le rechercher. Et en fait, de penser à ça, ça a toutes sortes de conséquences, et on va juste en regarder quelques-unes en prenant différentes histoires de personnages de la Bible, des conséquences du fait que Dieu regarde au cœur. Et une des conséquences, c'est que comme Dieu regarde au cœur, quand il regarde un croyant, il regarde en fait le nouveau cœur qui nous a été donné, c'est-à-dire qu'il nous regarde en fonction de notre nouvelle identité qui nous a été donnée en vertu de l'œuvre de Christ. Donc il regarde pas l'être extérieur qu'on est nous, donc il nous regarde pas comme nous on nous regarde, ni comme les autres nous regardent autour, mais il nous regarde en fonction de ce qu'il a fait de nous, de qui on est en Christ. Et l'exemple qu'on va prendre pour ça, c'est l'exemple de Gédéon. Donc on va juste lire dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 14. Alors, je ne veux pas lire tout le passage, donc je vais juste redire rapidement le contexte. Vous savez, Gédéon, donc c'était une période de l'histoire d'Israël où ils étaient rançonnés, on peut dire, par des ennemis. Je crois que c'était les Madianites, dans leur cas, oui, c'était les Madianites, qui, en gros, les occupaient, qui les empêchaient d'avoir des armes et puis qui passaient régulièrement faire des razzias pour prendre tous les résultats de leur récolte, tout ce qu'ils avaient. Et donc pour cette raison, Gédéon est en train d'essayer de battre un peu de blé pour avoir de quoi nourrir sa famille, mais il le fait en se cachant dans un pressoir parce qu'il a peur d'être vu par les Madianites et qu'on lui vole son blé. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel lui apparaît. Et au chapitre 6, au verset 14, donc l'Éternel lui apparaît. Alors déjà, même on peut commencer au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. » Et puis au verset 14, l'Éternel le regarda et lui dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Donc en fait, Gédéon, la façon dont il se voyait lui-même, on le voit un peu plus loin dans l'histoire, c'est « je suis le plus petit de la maison de mon père, le plus petit de ma famille c'est la plus petite de ma tribu, et la tribu c'est la plus petite d'Israël ». Donc lui-même, il se considérait comme quelqu'un qui avait aucune importance, quelqu'un de tout petit. La façon dont le peuple d'Israël le considérait, ben, c'était un des membres de la plus petite tribu, c'était vrai, sa tribu c'était la plus petite. La façon dont ses ennemis le considéraient, c'était un pauvre Israélite qui, de toute façon, n'a aucune chance de s'en sortir. Il est juste bon à ce qu'on vienne lui voler son blé. Donc tout le monde, lui compris, le considérait comme quelqu'un de tout petit et qui n'avait aucune valeur, aucune importance. Mais c'est pas du tout la façon dont Dieu le regarde. Et en fait, la raison, c'est juste que Dieu le voit en fonction de l'œuvre accomplie. Dieu sait déjà à quoi il l'a appelé. Il voit en lui le sauveur d'Israël, en fait, parce qu'il sait que ça va être le sauveur d'Israël, parce qu'il l'a appelé à ça. Et c'est pareil avec nous. On a parfois trop tendance à nous regarder nous-mêmes, soit selon nos propres idées, nos propres perspectives, parce qu'on n'est jamais aussi bien qu'on aimerait être. Donc il y a plein de domaines où on sait très bien qu'on aimerait s'améliorer, et du coup on se considère souvent trop petit, trop faible, trop plein de choses, ou pas assez plein de choses. Ou alors on se regarde comme les gens nous regardent, et c'est vrai que des fois, notamment dans le monde, on a une image qui nous est renvoyée qui est un peu dure. Et donc on a tendance à se voir comme n'étant pas grand-chose. Ou même en tant que chrétien dans un monde qui n'est pas du tout chrétien en France, on a tendance à se considérer comme tout petit et insignifiant et sans valeur. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit en nous. Dieu voit en nous des gens qu'il a appelés, des gens qui ont répondu à son appel aussi, et ça a du prix à ses yeux. Et donc c'est la première conséquence du fait que Dieu regarde au cœur. C'est que quelle que soit notre apparence ou notre insignifiance, en fait, Dieu nous voit comme des gens qui ont été assez importants pour qu'il vienne lui-même sur la terre mourir pour eux et dont il a fait ses enfants et il voit maintenant Christ en nous. Donc, on a une valeur à ses yeux qu'on n'imagine même pas à cause de ça. Donc ça, c'était le premier point. C'était que Dieu nous voit en fonction de notre nouvelle identité. Mais une autre conséquence du fait que Dieu regarde au cœur, c'est que du coup, il aime des gens que nous, on aurait tendance à considérer imparfaits ou même des gens qui ont tout faux à vue humaine. Et le bon exemple de ça, c'est Jacob. Alors, vous connaissez bien sûr ces versets, hein, je vais vous les relire. Pareil, je vous donne les références, vous n'avez pas forcément besoin de tourner pour aller voir le verset maintenant. On trouve en Malachie, au chapitre 1, versets 2 et 3, et puis aussi en Romains 9, verset 13, c'est la même chose. On trouve ce verset qui dit « Ésaü n'était-il pas frère de Jacob ?» dit l'Éternel. « Et j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Alors ça paraît surprenant quand on lit cette phrase, toujours on est un peu choqué, un peu surpris, en se disant comment Dieu peut aimer une personne et haïr son frère, comment c'est possible. Et en plus quand on connaît Jacob, c'est pas forcément la personne qu'on imaginerait comme étant la plus aimée de la part de Dieu, la plus aimable de la part de Dieu en tout cas, un tricheur, quelqu'un qui essaye toujours de magouiller pour que les choses se passent à son avantage. Mais en fait, on en a l'explication dans la Bible même en fait de la raison de cette différence entre Jacob et Ésaü. On le voit en Genèse 25, verset 34, on voit l'histoire en fait qu'on connaît hein, de ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü. Et donc c'est Jacob qui a demander à Ésaü de lui vendre son droit d'aînesse et Ésaü qui l'a vendu juste pour un plat de lentilles parce qu'il avait faim ce jour-là en rentrant de la chasse et il l'a vendu à ce moment-là. Et on a l'explication de la signification de ça en Hébreux 12 au verset 16 où il est parlé d'Ésaü et le verset dit « De peur qu'il n'y ait quelque profane comme Ésaü qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né ». En fait, la différence entre Jacob et Ésaü, c'est qu'il y en a un des deux qui attachait de l'importance aux promesses de Dieu et l'autre qui considérait que c'était pas très important. Et c'est pour ça que Dieu fait une différence entre Jacob et Ésaü, c'est parce que c'est pas en fonction des œuvres qu'ils faisaient, mais c'est en fonction de ce qu'il y avait dans leur cœur. Et dans le cœur de Jacob, il y avait en tout cas la promesse que Dieu a faite que de la descendance de mon père, d'Isaac, naîtrait le Messie qui va permettre de racheter la malédiction qu'il y a eu en Éden. Cette promesse-là, elle a de la valeur à mes yeux. C'est quelque chose dans quoi je crois et c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi et c'est pour ça qu'il a essayé de, de prendre la bénédiction d'Ésaü. Alors, pas du tout avec des moyens selon Dieu. Évidemment, hein, il a essayé de tricher, il a magouillé avec sa mère. Enfin, bon, c'était pas du tout la façon que Dieu avait prévue. Mais en tout cas, Dieu qui voyait son cœur, voyait que pour lui, c'était important que quand Dieu faisait une promesse, bah, il écoutait, c'était important pour lui, ça avait de la valeur pour lui. Alors qu'Ésaü, il n'avait pas l'air du tout de réaliser l'importance du droit qu'il avait. Il avait un droit incroyable. En fait, il avait reçu par naissance le droit d'être l'ancêtre du Messie. Et il vendait ça pour un plat de lentilles. Donc c'est dans ce sens-là que la Bible dit que Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il a haï Ésaü, qu'il l'a détesté. C'est juste en hébreu qu'on utilise ces contrastes comme ça, avec des mots forts. Ça veut juste dire que Dieu a aimé ce qu'il y avait dans le cœur de Jacob, et il voyait qu'il n'y avait pas ça dans le cœur d'Ésaü, qu'Ésaü n'avait pas de désir pour Dieu, d'amour pour Dieu. Il vivait de façon naturelle et puis c'est tout. Il voyait pas d'importance. Et dans Jacob, on le voit même plus loin dans sa vie, l'importance qu'il accordait à la promesse aux bénédictions de la part de Dieu. Vous savez, plus tard, il y a un moment dans sa vie où il se retrouve à lutter contre l'ange de l'Éternel. Et à un moment, l'ange veut s'en aller et Jacob le retient en lui disant « Je te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni ». En fait, là aussi, il montre que pour lui, c'était précieux, une bénédiction de l'Éternel. C'était pas quelque chose de léger ou d'accessoire, ou si on l'a, c'est bien, si on l'a pas, tant pis. C'était quelque chose qui valait la peine de se battre pour, quitte à être boiteux après pour le reste de sa vie. Donc voilà, les promesses de Dieu avaient de la valeur pour lui, la bénédiction de Dieu avait de la valeur. Ça prouve qu'il faisait confiance en Dieu, en fait, simplement. Qu'il savait que ce qui venait de la part de Dieu avait de la valeur. Et c'est ça que Dieu voyait dans son cœur, et qui a fait qu'il puisse dire comme ça par le Saint-Esprit dans sa parole, Dieu a aimé Jacob, malgré tout ce qu'il était. Donc deuxième point, Dieu aime des êtres qui, à nos yeux, ont tout faux. Alors, pas du tout le religieux parfait, ou le croyant parfait, ou celui qui fait tout comme il faut, mais parce que Dieu voit au-delà de ce qu'on voit nous. Et même encore plus loin que ça, on va voir dans le troisième point que du coup, comme Dieu regarde au cœur, il ne s'attache. On voit plusieurs exemples dans la Bible de cas où Dieu ne s'est pas attaché aux formes extérieures du moment que le cœur était attaché à lui. Pourtant, on voit notamment dans tout le moment où il a donné la loi, au début dans le Pentateuque, que les formes extérieures c'était quand même important pour Dieu. Il avait donné toute une série de commandements très très précis. Il fallait faire les choses d'une manière et pas d'une autre. Mais en même temps, si Dieu demandait toutes ces choses précises, c'était pas forcément pour la chose en elle-même. C'était parce qu'il y avait des réalités spirituelles derrière et que ça représentait son caractère, ça représentait qui il était. C'était pour ça qu'il avait donné des ordonnances précises. Et du coup, on va regarder un ou deux exemples où les gens ont peut-être pas respecté exactement les formes précises, mais dans leur cœur, ils étaient attachés au caractère qui était derrière. Et c'est ça que Dieu a regardé. Alors, on va regarder un premier exemple. En Deux Rois, au chapitre 5. Donc, c'est l'histoire de Naaman. Donc, je vous rappelle un petit peu. Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie, qui était lépreux. Et donc, pendant une des batailles avec le peuple d'Israël, il avait emmené captive une jeune Israélite, qui était du coup devenue la servante dans sa maison. Et un jour, cette petite servante lui dit, si tu étais en Israël, si tu connaissais le prophète qui est en Israël, tu pourrais être guéri de ta lèpre. Et donc Naaman se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Il va en Israël et il va rencontrer le prophète en amenant plein de cadeaux pour demander à être guéri de sa lèpre. Et puis voilà, vous connaissez l'histoire. Donc Élisée, puisque c'est lui le prophète, lui dit d'aller se baigner cette fois, je crois, dans le Jourdain, et qu'il sera guéri. Dans un premier temps, il se met en colère en disant, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller me baigner dans le Jourdain ? Il y a des fleuves dans mon pays aussi. Et puis finalement, sous l'indication de ses serviteurs qui lui disent encore une fois « qu'est-ce que tu as à perdre ?» Il dit « ok, je vais le faire ». Il est guéri, il retourne du coup vers Élisée pour le remercier, pour lui amener toutes sortes de cadeaux. Et je trouve quelque chose de très joli dans ce qu'il dit à Élisée à ce moment-là. Donc c'est en Deux Rois 5, en commençant au chapitre 17, au verset 17, pardon. On peut même commencer au verset 15. Donc il retourna vers l'homme de Dieu, lui et tout son camp. Il vint et se tint devant lui et dit « Voici, je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. Et maintenant, je te prie, prends un présent. » Donc il essaye de lui offrir quelque chose, Élisée refuse. Et Naaman dit au verset 17 « Si cela ne se peut, qu'on donne, je te prie, de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. Quand ceci l'Éternel pardonne à ton serviteur, quand mon Seigneur entrera dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main et que je me prosternerai dans la maison de Rimmon, que l'Éternel, je te prie, pardonne à ton serviteur en ceci, quand je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Et il lui dit, va en paix. Donc en fait, il retourne voir Élisée pour le remercier, et puis là, il confesse qu'il reconnaît dans son cœur qu'il y a un seul Dieu sur toute la terre et que c'est l'Éternel, qu'il n'y en a pas d'autre. Et puis tout d'un coup, il réalise que de sa position de chef de l'armée du roi de Syrie, bah, une de ses attributions, c'est qu'il faut qu'il aille avec le roi de Syrie quand il entre dans la maison de son idole, Rimmon, pour aller l'adorer. Et il réalise que c'est un problème, en fait, maintenant qu'il a cru en l'Éternel. Et donc, il demande très humblement à Élisée d'intercéder auprès de Dieu pour que Dieu lui pardonne, parce qu'il va être obligé de continuer à faire ça en tant que chef de l'armée. Et on voit que Dieu lui dit, enfin, le prophète lui dit, va en paix. Donc, sous-entendu, Dieu lui dit, c'est pas un problème. Et là, encore une fois, on sait ce que Dieu en pense de l'idolâtrie. Bien sûr que Dieu est pas pour l'idolâtrie. Et on voit d'autres exemples dans la parole, en plus, de croyants qui ont refusé d'entrer vers une idole ou de se prosterner devant elle. Mais dans ce cas précis de la situation de Naaman, ce qui comptait aux yeux de Dieu, c'était le cœur de Naaman. Et le cœur de Naaman, il était très clair, c'était sa confession du verset 15. « Je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. » Et du coup, Dieu regarde ça. Et il va fermer les yeux dans un sens, mais pas dans le sens où il ferme les yeux sur un péché, dans le sens où c'est pas un péché dans son cas, voilà, c'est sa fonction. Il se trouve qu'il va faire ça avec le roi comme il le faisait avant, mais il va plus le faire du tout comme il le faisait avant. Puisqu'on peut imaginer qu'avant, il adorait probablement cette idole parce que c'était sa culture. Et là, maintenant, il a bien compris, puisqu'il le mentionne devant le prophète, il a bien compris que c'est juste quelque chose qu'il va faire formellement, mais qui ne correspondra à rien dans son cœur, puisque dans son cœur, il reconnaît qu'il y a un seul Dieu, l'Éternel. Donc un exemple d'une chose qui peut nous paraître surprenante dans la Bible et en fait qui est expliquée par le fait que Dieu regarde au cœur. Et un autre exemple aussi, c'est avec le peuple d'Israël qu'on voit cet exemple, cette fois-ci le peuple tout entier, et c'est en 2 Chroniques, au chapitre 30. Donc cette fois-ci, ça se passe sous le règne d'Ézéchias. Et donc, sous le règne d'Ézéchias, il y a eu un grand réveil. J'essaie de regarder ce qui était avant, mais peu importe, c'est pas grave. En tout cas, avant Ézéchias, il y a eu une série de rois qui ont pas du tout marché avec Dieu. Et le peuple s'est éloigné énormément au point que plus personne n'avait célébré la Pâque en Israël depuis très longtemps. Et ils avaient oublié toutes sortes des commandements que Dieu avait donnés sur comment on devait offrir les sacrifices, comment on devait se présenter devant Dieu. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui avaient été oubliées tellement ça faisait longtemps que ça n'avait pas été observé. Et puis sous Ézéchias, ils ont détruit les hauts lieux, détruit tous les endroits où on adorait des idoles. Et puis ils ont remis en lumière le livre de la loi, réouvert le temple, nettoyé le temple. Et ils ont décidé de recélébrer une Pâque à l'Éternel alors que c'était pas arrivé depuis très longtemps. Et donc on lit au chapitre 30. Déjà au verset 15, on peut commencer. Donc on égorgea la Pâque le 14e jour du second mois, et les sacrificateurs et les lévites avaient eu honte et s'étaient sanctifiés. Ils avaient eu honte parce qu'en fait, dans le début du chapitre, ils s'étaient pas du tout préparés comme ils étaient censés le faire avant la Pâque. Encore une fois parce qu'ils avaient oublié tous ces rites-là, et donc ils ont été repris, ils se sont sanctifiés. Et puis ils amenèrent des holocaustes dans la maison de l'Éternel, ils se tinrent à leur place selon leur ordonnance. Et ensuite, au verset 17, il y avait une grande partie de la congrégation qui ne s'était pas sanctifiée, et les Lévites égorgèrent la Pâque pour eux. Et au verset 18, une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm et de Manassé et d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque non comme il est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, disant « Que l'Éternel, qui est bon, pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, bien que ce ne soit pas conformément à la purification du sanctuaire. Et l'Éternel écouta Ézéchias et guérit le peuple. » Donc là aussi, on voit que c'est des croyants et ils n'ont pas fait les choses comme, exactement comme Dieu avait demandé. Ils n'ont pas observé la loi comme Dieu l'avait dit. En fait, avant les fêtes et notamment avant la Pâque, il y avait toutes sortes de rites de purification à observer, des jours où on devait s'abstenir d'eux, etc. Toute une série de rites de purification et ils n'avaient pas fait tout ça. Mais en même temps, il y avait un tel réveil à ce moment-là dans le peuple et ils avaient un tel désir de célébrer la Pâque à l'Éternel qu'ils l'avaient fait quand même. Et dans ce cas précis, Ézéchias intercède auprès de Dieu pour le peuple en disant « Regarde à leur cœur, regarde comme ils sont revenus vers toi, regarde d'où ils reviennent et le désir qu'ils ont de te louer de nouveau et de te célébrer et passe par-dessus le fait que les formes n'ont pas été observées comme elles auraient dû l'être. » Et on voit que Dieu accepte cette prière, que Dieu répond à cette prière. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les formes n'étaient pas importantes pour Dieu, parce qu'on a d'autres exemples dans la parole où au contraire, Dieu a été très sévère. Je pense à Uzza, quand il a retenu l'arche de tomber et qu'il est mort sur place parce qu'il n'était pas censé toucher l'arche. Donc on sait que les formes, elles sont importantes aux yeux de Dieu. Mais en même temps, Dieu regarde au-delà de la forme et il regarde le cœur. Et dans ce cas précis, il voyait le cœur du peuple. Et il était béni, je pense, de voir tout le peuple qui revenait vers lui de façon nationale comme ça, alors que c'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, quand Ézéchias prie pour eux, Dieu leur pardonne. Donc ça, c'est le troisième point. C'est parce que Dieu regarde au cœur, dans des cas où nous, on a l'impression que quelqu'un fait pas les choses correctement, en fait, Dieu agrée ce qu'il fait parce qu'il voit son cœur et c'est ça qui compte, en fait. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Et puis, un autre point, donc le quatrième, quatrième conséquence du fait que Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence, c'est que Dieu aussi va estimer nos paroles et nos réactions en fonction de ce qu'il voit dans notre cœur. Il va pas forcément s'arrêter juste à ce que nous on entend quand quelqu'un dit quelque chose ou réagit d'une certaine manière, mais Dieu voit le cœur et c'est ça qui compte à ses yeux. Et là, on va voir deux exemples qui paraissent contradictoires, de deux personnes qui ont eu une réaction d'incrédulité et puis Dieu a pas du tout traité de la même manière les deux cas. Donc le premier cas qu'on va voir, c'est celui de Sarah. On va aller en Genèse, au chapitre 18. Je vais pas trop vite, ça va? Genèse chapitre 18. Donc là, le contexte, c'est que Sarah a 86 ans. Donc Dieu lui a promis, ça fait à peu près 25 ans, qu'elle allait avoir un fils et que de lui, elle allait susciter à son mari Abraham une descendance nombreuse. Mais voilà, c'était il y a 25 ans. Elle en a 86, elle est ménopausée. Et en gros, elle pense que c'est fini, que la promesse de Dieu ne s'accomplira plus. Et dans ce contexte-là, il y a un ange qui apparaît à son mari. Elle est là, elle est présente, elle est dans la tente, mais elle entend. Et on va lire au chapitre 18, les versets 9 à 15. Donc c'est plusieurs anges, c'est deux anges, je crois, qui apparaissent. Non, trois hommes, trois anges. Il dit à Abraham, « Où est Sarah, ta femme ?» Et elle dit, voici dans la tente. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi quand son terme sera là, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même, disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. » Et Sarah le nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Et il dit, « Non, car tu as ri. » Donc on la connaît tous, cette histoire, en fait. Encore une fois, je vous remets le contexte parce qu'on a tendance à juger facilement Sarah, mais voilà, faut quand même se mettre un petit peu à sa place aussi. Ça fait donc 25 ans qu'elle attend, et là, en apparence, c'est trop tard. Il n'y a plus rien qui peut se passer, et elle entend cette promesse de l'ange, et sa réaction, c'est de rire. Et on a l'impression, en tout cas, que Dieu lui fait un reproche dans le passage d'avoir ri. Mais en fait, quand on lit d'autres passages de la parole, ça éclaire d'un autre jour cette scène-là. D'abord, si on regarde ce qu'elle a dit juste après la naissance de son fils, donc vous tournez juste deux pages, et vous êtes en Genèse 21, les versets 6 et 7. Donc c'est juste après la naissance d'Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire, quiconque l'entendra rira avec moi. Et elle dit, qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera des fils, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Donc, c'est marrant parce que on aurait eu tendance à lui reprocher de rire en disant, tu n'as pas cru à ce qu'on t'a dit. Mais là, elle rit toujours. Pourtant, là, elle croit, il est né. Il vient de naître, Isaac. Elle continue à rire. Du coup, moi, je commence à m'interroger en me disant, est-ce que c'était vraiment que de l'incrédulité, ce premier rire? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Est-ce que c'était pas un rire de se dire, mais oui, c'est peut-être possible, finalement. Peut-être que c'est pas complètement impossible. En tout cas, on voit qu'elle rit toujours au moment de la naissance d'Isaac, mais cette fois-ci, avec un rire de joie, de reconnaissance, et probablement de louange à Dieu, de se dire, c'est incroyable ce que Dieu peut faire. Et puis, on en a encore plus le commentaire en hébreu, au chapitre 11. Et au verset 11, Hébreux 11, verset 11, « Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. » On s'attend pas à ça, en fait, quand on a lu l'histoire avant. En fait, ce que le Saint-Esprit dit de Sarah, donc le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est celui qui voit son cœur, c'est qu'elle a estimé fidèle celui qui avait promis. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a eu quand même sur le moment une petite réaction de « non, c'est pas possible », qu'on aurait tous eu dans un cas comme ça. Mais au fond de son cœur, Dieu voyait qu'elle croyait fermement que tout ce que Dieu disait, il pouvait le faire, qu'il n'y avait pas de limite à ce que Dieu pouvait faire. Elle estimait fidèle celui qui avait promis, et même contre toute probabilité, contre toute vraisemblance. Et c'est ce que le Saint-Esprit garde d'elle, c'est ce qu'on voit d'elle en Hébreux 11. Elle est un héros de la foi à cause de ça, en Hébreux 11. Et je trouve touchant de voir que, alors que nous, on voit juste une réaction d'incrédulité, en fait, Dieu, qui voit son cœur, voit qu'il y a peut-être sur le moment un soupçon d'incrédulité, puisqu'il lui dit quand même, si, tu as ri. Voilà, je note, tu as ri. Mais en même temps, le regard qu'il porte sur sa vie au final et sur son cœur, c'est « elle a estimé fidèle ». Elle m'a estimée fidèle quand je lui ai promis quelque chose. Et du coup, elle est dans la liste des héros de la foi. Je trouve ça très, très beau. Et en contraste, parce qu'il n'y a pas que des réactions d'incrédulité qui correspondent à un cœur qui croit, en contraste, il y a une histoire en Deux Rois, au chapitre 7. J'espère que je ne vous perds pas avec trop d'histoires. Je voulais prendre des exemples différents, mais... Deux Rois, chapitre 7. Alors, pour avoir un petit peu le contexte, on va commencer à lire les versets 1 et 2. Donc là, on retourne dans le pays d'Israël. Et la ville de Samarie, donc du royaume du Nord, est assiégée. Elle est assiégée au point qu'il n'y a plus rien à manger, en fait, vraiment. Donc assiégée, c'est-à-dire qu'il y a tous les ennemis autour de la ville qui empêchent les provisions de rentrer, les gens de sortir. Et donc au bout d'un moment, il n'y a plus rien à manger dans la ville. Tout le peu qui reste est à des prix exorbitants. Et le prophète Élisée est envoyé par Dieu avec une prophétie. Donc ça, c'est les versets 1 et 2 du chapitre 7, aux Deux Rois. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, demain à cette heure-ci, la mesure de fleurs de farine sera à un sicle, et les deux mesures d'orge à un sicle à la porte de Samarie. » Ça voulait dire que ça coûtait rien, ça coûtait trois fois rien. En gros, là, toutes les provisions étaient devenues extrêmement chères parce qu'il n'y en avait plus beaucoup dans la ville. Et ce qu'Élisée annonce, c'est que ça va coûter trois fois rien le lendemain. La même mesure de farine qui coûte un prix exorbitant aujourd'hui, demain, ça va être carrément donné. Et donc, verset 2, « Le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, voici quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc là, le capitaine des gardes, donc un peu le responsable de la ville, quoi, le chef qui se tient à la porte, le prophète lui annonce que le lendemain, il y aura tellement de nourriture disponible dans cette ville assiégée qu'elle coûtera plus rien, en fait, qu'elle va être bradée. Et la réaction du capitaine, c'est non seulement de pas croire, mais même de se moquer et de se moquer de Dieu, en fait. Même si on ouvrait des fenêtres au ciel, Dieu aurait pas assez pour nous donner tout ça. Et du coup, on voit la sentence d'Élisée qui lui dit, ben, tu le verras, mais tu pourras pas en profiter. Et on voit ce qui se passe au verset 16. Le lendemain, quand même vous dire en deux mots ce qui s'est passé entre deux, parce que c'est plus sympa. Donc en fait, entre deux, le soir ou pendant la nuit, je sais plus, c'est peut-être bien pendant la nuit. Bref, il y avait quatre lépreux qui étaient assis à l'entrée de la ville, qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville à cause de leur lèpre, donc qui restaient à l'extérieur et qui étaient en train de mourir de faim comme tout le monde, et puis qui se sont parlé l'un à l'autre le soir en se disant... De toute façon, on va mourir là. On est en train de mourir affamés. Donc, qu'est-ce qu'on risque? On va essayer d'aller entrer dans le camp des Syriens Le camp des Syriens qui nous assiège. Si on arrive à voler des trucs à manger, ben, au moins on aura mangé. Et s'ils nous tuent, ben, de toute façon, on va mourir. Donc, on n'a rien à perdre. Allons-y. Et donc, ces quatre lépreux entrent dans le camp des Syriens qui a assiégé la ville et ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne, en fait. Ils sont tous partis. Ils ont abandonné toutes leurs affaires. Ils ont abandonné toutes leurs victuailles. Donc il y a à manger de partout dans le camp, il y a des armes, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a plus personne. Ils se sont tous enfuis. Et donc ils mangent, ils commencent à manger, et puis au bout d'un moment ils se disent « Non, quand même, là on exagère, il y a plein de gens dans la ville qui sont en train de mourir de faim, il faut qu'on aille leur dire. » Et donc ils vont à la ville, ils leur disent, au début les gens dans la ville ne les croient pas, et puis finalement ils envoient des chevaux pour voir s'ils reviennent, et ils se rendent bien compte que c'est vrai, et qu'effectivement il y a de l'abondance maintenant à cause de tout ce qui a été laissé par les Syriens dans leur fuite. Et donc au verset 16, verset 16, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et la mesure de fleurs de farine fut à un sicle, et les deux mesures d'orge à un sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait, et le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Et il arriva selon la parole que l'homme de Dieu avait adressée au roi, disant « Les deux mesures d'orge seront à un sicle, la mesure de fleurs de farine sera à un sicle demain à cette heure-ci, à la porte de Samarie. » Et le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arriverait-elle ? » Et il dit « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et il lui en arriva ainsi, le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut. Donc ce capitaine qui n'avait pas cru la veille ce que le prophète avait dit, ben c'est lui qui est chargé de garder la porte de la ville le jour où on découvre toutes les victuailles, et donc il se fait écraser par les gens qui se précipitent dehors pour aller chercher à manger, et donc lui n'en profite pas. Et quand on lit, j'aurais tendance à dire, si un incrédule lit la Bible et puis qu'il lit ces deux histoires qu'on vient de lire l'une après l'autre, on pourrait se dire, ben pourquoi Dieu a fait grâce à Sarah et puis pourquoi il a puni aussi sévèrement le capitaine des gardes, et en fait la réponse elle est dans leur cœur, elle est dans le cœur de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que nous on voit juste leur réaction dans un point précis de leur histoire, alors que Dieu voit leur cœur, et il voit que dans un cas il y avait quelqu'un qui croyait vraiment en lui et qui lui faisait confiance, même si à un moment précis peut-être elle a eu un petit moment de doute, et de l'autre côté il y avait quelqu'un qui se fichait pas mal de Dieu, qui croyait pas en lui, qui croyait pas en sa puissance, qui croyait pas en sa miséricorde, et c'est ce qui fait toute la différence en fait. Donc voilà, à travers tous ces exemples, je les ai réunis en fait parce que ce que je trouve intéressant, c'est que quand on lit les histoires de manière extérieure ou parfois quand on regarde nos vies ou celles des autres comme ça de façon naturelle, on peut parfois avoir l'impression que Dieu est injuste parce qu'on a l'impression que pour l'un il a réagi d'une façon et pour l'autre il a réagi d'une autre. Or on sait que Dieu est pas injuste et en fait, la raison, elle est là. La raison, c'est que nous, on ne voit que ce qui se passe à l'extérieur. On voit juste les décisions extérieures que les gens prennent ou les choses extérieures qu'ils font. Mais Dieu voit bien au-delà. Dieu voit ce qui se passe dans leur cœur. Et pour deux réactions identiques en apparence, il peut y avoir deux cœurs vraiment très différents au fond. Et c'est ça que Dieu regarde. Et il y a plusieurs passages, du coup, dans la parole qui nous disent de faire attention à ne pas juger. Pour cette raison-là, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main, comme on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens, on risque de se tromper en pensant que quelqu'un fait mal alors qu'en fait il a un cœur pour Dieu, ou l'inverse aussi. Donc, il y a plusieurs versets comme ça, il y a Romains 14 notamment. Romains 14, il y a plusieurs versets à ce sujet, notamment au verset 10. Romains 14, verset 10, qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou aussi toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Vous savez, le tribunal de Christ, c'est donc le moment après la résurrection où les croyants paraîtront devant Christ, pas pour être jugés dans le sens de sauver ou pas sauver, puisque les croyants seront sauvés juste parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, mais simplement leurs œuvres seront jugées. Et en fait, c'est intéressant que ça apparaisse dans ce verset-là. Il n'y a pas beaucoup de mention du tribunal de Christ dans la parole, mais ça apparaît justement dans le verset qui dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» En fait, comme pour dire, le seul endroit où on pourra vraiment juger, en fait, c'est Christ qui pourra vraiment juger, parce qu'il pourra juger en fonction de ce qu'il y avait dans le cœur des gens qui ont pris les décisions ou qui ont fait les choses en question. Les actions ne seront pas jugées en elles-mêmes, mais en fonction de ce qu'il y avait dans le cœur au moment où elles ont été accomplies. Donc, jusqu'à ce que ce moment arrive, nous, on n'a pas les clés pour juger. On n'a pas tous les éléments, il nous manque beaucoup trop de choses. Il y a aussi un verset en 1 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 5, qui dit « Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. » Donc, qui manifestera les conseils des cœurs. C'est ça, ça sera ça la différence. C'est que quand Dieu jugera les actions, il jugera pas les actions en elles-mêmes, mais il manifestera les conseils des cœurs. Il manifestera ce qu'il y avait dans le cœur qui a déterminé l'action. Et c'est de cette manière-là qu'il jugera. C'est pour ça que son jugement sera juste, en fait. Et une autre chose, moi, qui m'encourage aussi quand je lis ces versets-là, c'est que il peut nous arriver dans cette vie d'être mal jugé des fois. Des fois, on peut être l'objet d'injustice. On peut avoir des gens parfois qui nous en veulent de quelque chose qu'on n'a pas fait, ou qui nous prêtent une intention qu'on n'a jamais eue. Voilà, on peut de toutes sortes de manières comme ça être mal jugé. Et bien sûr, c'est blessant. C'est quelque chose qui est douloureux. Mais en même temps, une chose qui peut nous consoler, alors des fois les choses peuvent s'arranger en plus, même humainement, mais même quand bien même elles ne s'arrangeraient pas, quand bien même on n'arriverait jamais à faire valoir notre bon droit, et quand bien même on serait toujours l'objet d'une injustice, il y a une chose qui peut vraiment nous consoler, c'est de nous dire que Dieu lui voit dans nos cœurs. Et lui, il sait que dans l'affaire, on n'a pas tort, en fait. Même si on n'a aucun moyen de le prouver, même si tout le monde devait être contre nous en pensant qu'on a fait quelque chose de mal alors que c'est pas le cas, on sait qu'on a quelqu'un qui voit dans notre cœur, qui sait exactement ce qu'il en est, et qui, comme dans le verset qu'on a lu, qui nous rendra la louange qui nous est due en son temps. Et donc pour terminer, j'aimerais bien qu'on lise ensemble au psaume 139. On va lire les versets 1 à 6. C'est un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 139. Donc, psaume 139 au verset 1. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. C'est pas un passage encourageant, ça, de se dire que voilà, il y a une personne qui nous connaît parfaitement, qui se trompe jamais sur nos intentions, qui se trompe jamais sur nos motivations, qui fait pas d'erreur à notre sujet, qui sait exactement ce qu'on a dans le cœur. Et juste, c'est encourageant de se dire que quel que soit ce qu'on traverse, Dieu regarde à nos cœurs. Il regarde pas forcément aux choses extérieures ou aux fois où on échoue, où on fait pas les choses comme on voudrait. Mais lui, il voit nos cœurs et il sait quelles sont nos intentions. Il sait quelles sont nos motivations. Et au final, il y aura une récompense pour toutes les choses qui auront été faites pour lui, même si personne d'autre ne les a vues. Peut-être même pas nous. Peut-être il y a des choses, on n'est même pas conscient, en fait. Juste, on est fidèle à Dieu et on l'aime dans notre cœur et ça a des conséquences dans notre vie. Ça nous fait faire des choses ou peut-être ne pas en faire d'autres. Et on se rend même pas compte qu'on est en train de faire quelque chose pour Dieu en faisant ça. Mais il y aura une récompense pour ça aussi. Pour tous les moments où notre cœur était pour Dieu, où on a choisi Dieu plutôt qu'autre chose, même parfois sans s'en rendre compte. Et du coup, quand on sait comment Dieu nous connaît, comment il nous aime, comment il voit chaque chose dans notre vie, ben ça amène la prière de la fin du psaume 139, en fait, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. Voilà, quand on sait que Dieu nous connaît aussi parfaitement, et puis qu'on réalise aussi que nous-mêmes, on se connaît pas si bien que ça, qu'il peut y avoir des choses dans notre cœur dont on n'est pas conscient. C'est une prière qu'on peut faire à Dieu, de dire, ben voilà, toi qui vois tout, toi qui me connais parfaitement, s'il y a quelque chose dans mon cœur qui m'empêche d'avancer avec toi, qui n'est pas droit, montre-le-moi, juste montre-le-moi afin que je puisse de nouveau marcher sur la voie éternelle. Voilà, donc pour résumer, Dieu voit tout, même notre cœur, et puis nous, d'une part il y a ce côté consolant de se dire Dieu sait tout ce qui se passe dans mon cœur et il peut pas faire d'injustice vis-à-vis de moi parce que lui il sait exactement ce qu'il en est. Et puis l'autre corollaire, c'est il fait pareil pour les autres, c'est-à-dire quand je vois des choses chez les autres qui peut-être me paraissent pas normales, mais il faut que je fasse attention à pas juger parce que je sais pas ce qu'il y a dans le cœur. Je sais pas du tout ce que la personne traverse. Je sais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie en ce moment. Et puis je sais pas du tout quel est son cœur. Donc je peux pas du tout juger. Et donc la seule façon pour nous de nous comporter en sachant qu'on connaît pas les cœurs les uns et des autres, c'est ce qu'on trouve en 1 Corinthiens 13, vous savez, dans le chapitre sur l'amour. En fait, il y a plusieurs caractéristiques de l'amour. Ça dépend des versions, mais l'une d'entre elles, c'est n'impute pas le mal ou ne pense pas le mal. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, alors on croit le meilleur, en fait. Quand une réaction nous surprend de la part de quelqu'un, on n'essaye pas d'imaginer ce que peut-être la personne pense. On dit, voilà, je ne sais pas, donc je pense le meilleur. Je pense le meilleur, c'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas de mal dedans. C'est juste, Dieu sait. On le laisse entre les mains de Dieu. Donc, n'impute pas le mal, ne pense pas le mal. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et je crois que c'est vraiment la clé dans nos relations les unes avec les autres, c'est d'essayer de nous rappeler toujours de ça, en fait, qu'on ne connaît pas, on ne peut pas lire dans les cœurs les unes des autres, donc on doit juste croire le meilleur, même quand il y a des choses qu'on ne comprend pas.